Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 83, Daf Pe Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Bah haKatuv liten ase achar lo ta'ase. Le pasuk est venu prescrire un commandement positif à la suite du commandement négatif, en disant que ce qui reste de la viande du sacrifice devra être brûlé le lendemain. L'omar she'en lo kin alav, pour dire que pour avoir transgressé cette interdiction de laisser le sacrifice passer la nuit, on ne mérite pas de peine de flagellation, parce que nous considérons que ce commandement négatif est réparé par le commandement positif. D'ivrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, lo min hashem uze, ce n'est pas cela la raison pour laquelle il n'y a pas de peine prévue pour celui qui laisse le sacrifice passer la nuit. Et là, mishum de havale, lav she'en bo ma'aseh, mais plutôt parce que c'est un commandement négatif qui est transgressé sans action de la part de la personne. Le chol lav she'en bo ma'aseh est tout commandement négatif qui n'est pas transgressé par une action, et no kinalav, le contrevenant n'est pas condamné à une peine de flagellation. En tout cas, nous voyons que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est seulement parce qu'il y a un commandement positif qui répare le commandement négatif qu'une personne n'est pas condamnée à une peine de flagellation pour laisser le sacrifice passer la nuit, mais sans cela, il pourrait être condamné, bien que dans ce cas, l'avertissement serait en doute, parce que s'il est averti trop tôt, il pourrait se dire qu'en fait, il a encore le temps de manger le sacrifice, il ne prend pas cet avertissement au sérieux, et si on l'avertit trop tard, il se dit que de toute façon, il est trop tard, il ne peut plus terminer de manger le sacrifice. Et quand même, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, selon l'auteur de cette braïta, il pourrait être condamné à une peine de flagellation. C'est cette opinion qui est aussi rapportée dans la Mishnah, plus loin d'Av Tzadevav, concernant le nerf sciatique, et c'est pour cela que même si la personne a mangé les deux nerfs sciatiques de l'animal et cette transgression a fait l'objet de deux avertissements séparés, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, il serait condamné à une peine de flagellation. En l'agma dit, Tashma vient coûte une preuve d'une braïta. Achal shne gidin mi shne rechot mi shte behemot. Une personne qui aurait mangé deux nerfs sciatiques droits provenant de deux hanches de deux animaux différents, Sofeg Shmonim, il lui sera infligé 80 coups, ou plutôt 78 coups, c'est-à-dire deux peines de flagellation. Rabbi Yehuda Omer, Eno Sofeg El Arbaim, il ne lui sera infligé que 40 coups, ou plutôt 39 coups, c'est-à-dire une peine de flagellation. Alors la question se pose, Heridami, comment se présente l'enseignement de cette braïta? Il est ma bezeh acharze, s'il s'agit d'un cas où il a mangé ses deux nerfs sciatiques l'un après l'autre, ou bishte atraot, et cette transgression a fait l'objet de deux avertissements séparés. Maïtama de Rabbi Yehuda de Amar Arbaim Betulo, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'est condamné qu'à une seule peine de flagellation et pas plus? Finalement, il a transgressé deux interdictions et il a été averti deux fois. Et la Pshita, plutôt il est évident de Batachat, il s'agit d'un cas où il a mangé ses deux nerfs sciatiques en même temps, en une fois, ou Bechadatra, et cette transgression a fait l'objet d'un seul avertissement. Alors la question se pose, Mantanakama, quel est le premier auteur de la Baïta? Il est Marabanan de Pligale de Sumkus, si ce sont les Chachamim qui sont en désaccord avec Sumkus. C'est impossible, parce que Huma Hatam, si déjà là-bas, concernant l'interdiction d'abattre un animal et son petit, de Goufin, Mouklakin, ou cette interdiction a l'importance de deux corps séparés, parce qu'elle est transgressée par le moyen de deux animaux différents, Patre Rabbanan, quand même les Chachamim l'exemptent d'une seconde peine de flagellation. Haha, ici, dans le cas de deux nerfs sciatiques provenant de deux animaux, où cette interdiction n'a pas l'importance de deux corps séparés, parce que comme nous l'avons expliqué au nom du Rabbi Akiva Eger, cette importance n'existe que pour une créature vivante. Le Kol Sheken, n'est-il pas évident que les Chachamim l'exempteront d'une seconde peine? Et la lave, Sumkusi, n'est-ce pas donc qu'il s'agit de Sumkus? Nous pouvons déduire de là que même lorsqu'il n'y a pas l'importance de deux corps séparés, une personne qui transgresse deux fois la même interdiction dans le cadre d'un seul oubli ou en ayant reçu un seul avertissement, il sera condamné à deux peines. La Gemara réfute, le Olam Bezacharze, toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'un cas où il a mangé ses deux nerfs sciatiques l'un après l'autre et cette transgression a fait l'objet de deux avertissements séparés. Ou de Kaamart Maitama de Rabbi Yehuda, et la question que tu te poses, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi n'est-il condamné qu'à une seule peine de flagellation? La réponse est que Gand de Lebe Kazaïd, C'est par exemple dans un cas où un des deux nerfs sciatiques n'a pas le volume équivalent à celui d'une olive. Détania, car il est enseigné dans une braïta, achlo ven bokazaït, une personne qui a mangé un nerf sciatique et il n'a pas le volume équivalent à celui d'une olive, chayav, il est quand même coupable, il sera condamné à une peine de flagellation. Rabbi Yehuda Omer, achie bokazaït, il ne sera condamné à une peine de flagellation que lorsque celui-ci aura un volume équivalent à celui d'une olive. C'est pour cela donc que selon le premier auteur de la braïta, il sera condamné à deux peines de flagellation, parce que finalement il a transgressé deux interdictions. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, il ne sera condamné qu'à une seule peine de flagellation, parce qu'un seul des nerfs sciatiques a fait le volume requis, qui est équivalent à celui d'une olive. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Roulin, Daf Pegimel. Nous commençons le shiur de Masechet Roulin, Daf Pegimel, à la Mishnah, à la troisième des grandes lignes. La Mishnah dit, Barba'a prakim beshana, à trois périodes dans l'année, hamocher behema lechavero, une personne qui vend un animal à son prochain, tarich l'odio, il doit lui faire savoir, ima macharti lishrot, j'ai vendu la mère de cet animal pour être abattu, donc il faudra faire attention de ne pas les abattre le même jour, bita macharti lishrot, j'ai vendu la fille ou le petit de cet animal pour être abattu. Il faudra donc faire attention de ne pas les abattre le même jour. Ve'eluhen, et voici les quatre périodes de l'année. Erev Yom Tov Acharon Shel Chag, la veille du dernier jour de Yom Tov de Sukkot, donc la veille de Shmini Atzeret. Ve'erev Yom Tov Arishon Shel Pesach, et la veille du premier jour de Yom Tov de Pesach. Ve'erev Atzeret, et la veille de Shavuot. Ve'erev Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Hashanah. Ce sont des jours où beaucoup de gens abattent les animaux pour la fête. Il faudra donc faire particulièrement attention de ne pas abattre un animal et son petit le même jour. Ou que dit vrai Rabbi Yossi Aglili, et selon l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, Af Erev Yom Kippourim Begalil, même la veille de Yom Kippour en Galilée. En effet, en Galilée, selon Rabbi Yossi Aglili, ils avaient l'habitude d'abattre des animaux et non pas de manger simplement du poisson ou de la volaille la veille de Yom Kippour. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'on dit cela, qu'il faut avertir l'acheteur d'un animal, bisman chen lo revach, c'est uniquement s'il n'a pas le temps, c'est-à-dire dans le cas où la mère ou le petit de l'animal en question ont été vendus le jour même, aval yesh lo revach, mais s'il y a le temps, c'est-à-dire si la mère ou le petit de l'animal en question ont été vendus la veille ou quelques jours avant, en tsarich l'odio, il n'aura pas besoin de lui faire savoir qu'il a vendu la mère ou le petit de cet animal pour être abattu. Ou modé Rabbi Yehuda, cependant Rabbi Yehuda est d'accord de mocher et ha'em lachatan dans le cas d'une personne qui a vendu la mère au fiancé v'et habat lakala et le petit de cet animal à la fiancée qui se marie, c'est tzarich l'audio qu'il faudra faire savoir au deuxième acheteur que la mère ou le petit de l'animal en question ont été vendus à la seconde famille. Be'adua sheshnem shochatim yomechad, parce que c'est une chose connue qu'ils abattent tous les deux l'animal le même jour. C'est pour cela donc qu'il faudra les avertir de ne pas les abattre le même jour. Be'arba prakim elu, à ces quatre périodes, mashritim et hatabach bal korcho, on oblige le boucher d'abattre son animal contre son gré. Afilu shor shaveh elef dinarim, même s'il s'agit d'un taureau d'une valeur de 1000 dinars, ve'en lo lalokeach el adinar, et l'acheteur n'a acheté que la valeur d'un dinar de viande chez le boucher, kofim oto lishrot, on l'obligera à abattre son animal pour lui fournir la viande qu'il a achetée. Les sitars, c'est pourquoi ils mettent, si l'animal en question est mort avant d'avoir pu être abattu rituellement, mettent la lokéar, il est mort pour l'acheteur, autrement dit, l'acheteur a perdu sa viande. Aval bechar yomot hashana enoken, mais les autres jours de l'année, ce n'est pas ainsi. Même si l'acheteur a payé sa viande, on n'obligera pas le boucher à abattre son animal s'il n'a pas trouvé d'autres acheteurs pour le restant de la viande. Le ficar, c'est pourquoi ils mettent, si l'animal est mort avant d'avoir pu être abattu rituellement, mettent la mocher, il est mort pour le vendeur, c'est-à-dire c'est le boucher qui a perdu la viande, il devra donc ou abattre un autre animal pour fournir la viande à l'acheteur ou lui rendre son argent. Nous avons vu au début de la Mishnah qu'à quatre périodes de l'année, il faut avertir un acheteur éventuel que la mère ou le petit de l'animal ont été vendus auparavant à une autre personne. La Gemara dit là-dessus, Tana, il a été enseigné dans une braïta pour expliquer la Mishnah. Imlo hodio, si le vendeur n'a rien dit à l'acheteur, roler veshochet, l'acheteur peut abattre son animal, venonimna, il n'y a pas lieu de s'empêcher de le faire par crainte que la mère ou le petit de cet animal ont été vendus à une autre personne et qu'il serait abattu le jour même. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce que nous dirons cela? C'est uniquement si la mère ou le petit en question ont été vendus le jour même, mais s'ils ont été vendus auparavant, le vendeur n'a rien besoin de dire. Cependant, si le vendeur a vendu la mère au fiancé et le petit à la fiancée, il faudra les avertir, parce qu'en général, ils abattent l'animal le jour même. Alors la Gemara demande, l'amali le mitne, pourquoi est-ce que la Mishnah enseigne et s'exprime de cette manière, et ha'em la chatan, la mère au fiancé, vet abat la kala, et la fille donc le petit à la fiancée? La Gemara répond, Milta agavuche kamashmalan. L'auteur de la Mishnah vient nous enseigner quelque chose au passage de Urachara, que l'usage est le mitrach be chatana tfe mi be kalata, de faire plus d'efforts, donc de faire un plus grand repas dans la maison du fiancé que dans la maison de la fiancée. C'est pour cela donc qu'en général, dans la maison du fiancé, on achètera la mère qui est plus grande, tandis que dans la maison de la fiancée, on achètera le petit. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Barba, Parakim, Elou, etc. Pendant ces quatre périodes, on oblige le boucher à abattre son animal, même s'il n'a vendu que la valeur d'un dinar à l'acheteur, et qu'il n'a pas d'autre acheteur pour le restant de la viande. Alors la Gemara demande, Vehalo Machar, pourtant l'acheteur n'a pas tiré vers soi l'animal, il n'a donc pas acquis l'animal. Il n'y a aucune manière de forcer le boucher d'abattre son animal. Lagma répond, Amar Rav Huna Amar Rav Keshemachar. Ici, il s'agit d'un cas où l'acheteur a tiré vers soi l'animal. Il a donc acquis la viande qu'il a voulu acheter. On peut donc forcer le vendeur à abattre son animal. Lagma demande, Yachi, si c'est ainsi, s'il s'agit d'un cas où l'acheteur a pris possession de la viande, et Masefa, voyons voir la fin de la Mishnah. Aval Beshar Yemot Hashana Enokem, mais les autres jours de l'année, ce n'est pas ainsi. On ne peut pas forcer le boucher à abattre son animal s'il n'a pas trouvé d'acheteur pour le restant de la viande, le ficar. C'est pourquoi Immet, si l'animal est mort avant qu'on ne l'ait abattu, rituellement, Met la mocher, il est mort pour le vendeur, c'est lui qui a perdu la viande. Il devra donc soit restituer l'argent à l'acheteur, soit abattre un autre animal. Alors la question se pose, Vehamachar, pourtant l'acheteur a tiré vers soi l'animal, il a donc pris possession de cette viande. On devrait d'une part forcer le boucher à abattre son animal, et si l'animal est mort, c'est l'acheteur qui devrait perdre. Bagma répond, Amar Rav Shmuel Bar Rav Itzrak, Leolam, toujours pourrais-je te dire, Shalom Achar, que dans cette Mishnah il s'agit d'un cas où l'acheteur n'a pas tiré vers soi l'animal, il n'a donc pas pris possession de l'animal de cette manière. Ou que Gon, Shezika lo alide acher, mais plutôt il s'agit d'un cas où le vendeur lui a fait prendre possession par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est-à-dire, l'acheteur n'étant pas présent, il a demandé à une autre personne de prendre possession de l'animal pour le compte de l'acheteur. Be'arba aprakimelu, pendant ces quatre périodes que nous avons mentionnées de Zhutulo, où nous pouvons estimer que le fait d'acheter de la viande est un bénéfice pour l'acheteur, parce que pour la fête, il est obligé d'en avoir. Zachin le Adam shelo befanav. Il est possible de faire une action pour le bénéfice d'une personne hors de sa présence. Nous pouvons considérer que l'intermédiaire agit comme émissaire de l'acheteur ou de la personne en question. Par conséquent, l'acheteur a acquis la viande. Si l'animal meurt, c'est l'acheteur qui perd, et on peut forcer le vendeur, le boucher, à abattre son animal. Beshar Yemot Hashana. Mais les autres jours de l'année de Chovulo, où l'on peut considérer que le fait d'acheter la viande est une action à son détriment, parce qu'en fait elle peut être considérée comme étant une dépense inutile, En Chavin le Adam shelo befanav, on ne peut pas faire d'action au détriment d'une personne hors de sa présence. Dans ce cas, on ne pourra pas considérer que l'intermédiaire agit comme émissaire pour le compte de l'acheteur ou de la personne en question. Par conséquent, l'acheteur n'a pas acquis la viande, on ne pourra donc pas forcer le boucher à abattre son animal, et si l'animal est mort, c'est le vendeur qui a perdu. Rabbi Lazar Omer, il propose une autre réponse. Amar Rabbi Yochanan, Berba Prakim Elou, pendant ces quatre périodes de l'année, et Emidou Chachamim Divrehem Aldin Torah. Les Chachamim ont rétabli la halakha selon les lois fixées par la Torah. La Gemara précise, D'Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, selon les lois de la Torah, Ma'ot Konot, l'argent payé par l'acheteur acquiert la marchandise. Umata Amamru Meshicha Kona, et pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit que l'acheteur n'acquiert pas en payant sa marchandise, mais uniquement en faisant un acte d'acquisition comme tirer vers soi la marchandise? C'est parce que souvent, l'acheteur ne prend pas livraison tout de suite de sa marchandise. Par conséquent, Xera, il y a lieu de craindre, Shema Yomarlo, que le vendeur lui dise plus tard, par la suite, lorsqu'il voudra prendre livraison de sa marchandise, Misrefu Chitechabalia, ton blé ou ta marchandise que tu as acheté a brûlé dans le grenier. C'est-à-dire, puisque l'acheteur a pris possession de sa marchandise en la payant, le vendeur ne fera pas l'effort de sauver la marchandise qui est en train de brûler. C'est pourquoi les Chachamim ont décrété que le paiement de la marchandise ne l'acquiert pas, et c'est uniquement lorsque l'acheteur en prend possession, en la tirant vers soi, qu'il acquiert sa marchandise. Cependant, pendant ces quatre périodes de l'année où tout le monde prend livraison de sa viande, parce qu'il l'a besoin pour Yom Tov, les Chachamim ont rétabli la loi selon les lois de la Torah. Donc, lorsque l'acheteur paye sa viande, il a pris possession de celle-ci. Par conséquent, on pourra forcer le boucher à abattre son animal, et si l'animal meurt, c'est l'acheteur qui a perdu. Tandis que les autres jours de l'année, lorsque l'acheteur a payé sa viande, il n'en a pas encore pris possession. Par conséquent, on ne pourra pas forcer le boucher à abattre son animal, et si l'animal meurt, c'est le vendeur qui a perdu. Nouvelle Mishnah. Yom Echad Ha'amur Be'oto Vet Beno. Lorsque la Torah, dans Vaikra Kavbet, mentionne l'expression de un jour à propos de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Hayom Holech Achar Laila, le jour suit la nuit qui le précède. C'est-à-dire, comme dans le calendrier juif, le jour débute à la tombée de la nuit jusqu'à la nuit suivante. Etzu Darash Rabbi Shimon Ben Zoma, ceci a interprété Rabbi Shimon Ben Zoma. Ne'emar b'maaseh Bereshit, il est écrit à propos de la création du monde dans Bereshit Aleph Yom Echad. La Torah emploie donc l'expression de un jour. Ve'ne'emar b'otov et beno Yom Echad, et à propos de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, la Torah aussi emploie l'expression de un jour. Ma Yom Echad ha'amur b'maaseh Bereshit, de la même manière que le jour dont on parle à propos de la création du monde, Hayom Olech Achar Laila, le jour suit la nuit qui le précède. En effet, le pasouk dit Vayihi Erev, Vayihi Boker Yom Echad, et il fut la nuit et il fut le jour. C'est un jour. Nous apprenons donc que le jour débute à la tombée de la nuit. Af Yom Echad Ha'amur Be'otoved Beno, ainsi aussi le jour dont on parle à propos de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Hayom Holech Achar Laila, le jour suit la nuit qui le précède. La Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan no Chachamim, enseigné dans une braïta, Etzu Daraj Rabbi Shimon Ben Zoma, ceci a interprété Rabbi Shimon Ben Zoma, Le fish et kol haïnyan kulo eno medaber elabe kodashim, puisque tout le sujet en question, c'est-à-dire le paragraphe dont on parle de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, eno medaber elabe kodashim, ne parle que de sacrifice dans Vaikra Kavbet, ou bekodashim, laïla holecha harayom, et en ce qui concerne les sacrifices, la nuit suit le jour qui la précède, car nous savons qu'un sacrifice peut être consommé le jour où il a été sacrifié et la nuit qui le suit. Yachol Avzeken, on pourrait penser que ceci, c'est-à-dire l'interdiction d'abattre un animal et son petit, sera de même. C'est pour cela que Ne'emar Kan Yom Echad, le Pasuk, emploie ici l'expression de Yom Echad, un jour, Ve'ne'emar Ve'maaseh Bereshit Yom Echad, et à propos de la création du monde, le Pasuk emploie l'expression de Yom Echad, un jour. Nous ferons une Gzera Shava, et nous dirons donc, Ma Yom Echad Ha'amur B'maaseh Bereshit, de la même manière que le jour dont on parle à propos de la création du monde, Hayom Olech Achar Laila, le jour suit la nuit qui le précède, Af Yom Echad Ha'amur B'otoved Beno, ainsi aussi, le jour dont on parle à propos de l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Hayom Olech Achar Laila, le jour suit la nuit qui le précède. Nous tournons la page à Daf Pegimel Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, Chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Pegimel Amud Bet. Rabbi Omer, Yom Echad, lorsque le pasouk s'exprime en disant Yom Echad, le pasouk veut dire la chose suivante. Yom Amiyuchad, le jour spécial, Taoun Kruz. Il est nécessaire de procéder à une proclamation pour veiller à ce qu'un animal et son petit ne soient pas abattus le jour même. Selon cette interprétation, le pasouk sera lu Veshor Ose Otobet Beno Lotashritu Beyom Echad. Et un bœuf ou un agneau, lui et son petit, vous veillerez à ce qu'il ne soit pas abattu le jour même, en procédant à une proclamation. Mikan Amrou, de là, les Chachamim ont dit, Darba Prakim Beshana, à quatre périodes de l'année, Hamocher Behema Lechavero Tzarech Lodio, celui qui vend un animal à son prochain, il devra lui faire savoir, j'ai vendu le jour même sa mère ou son petit. Donc il faudra que tu fasses attention de ne pas les abattre le jour même. Hadrana Lachotovet Beno, nous avons fini ici l'étude du cinquième Perek. Nous commençons l'étude du sixième chapitre de Maseret Roulin, où nous parlerons essentiellement de la mitzvah de Kisui Adam, qui consiste à recouvrir le sang d'un animal sauvage tel un cerf ou une biche, ou d'un oiseau, comme un poulet ou un pigeon, qui ont été abattus rituellement. Alors la Mishnah dit, Kisui Adam, la mitzvah de recouvrir le sang, Noheg Ba'aretz ou Bechutz La'aretz, à court, soit en Eretz Israël, soit en dehors d'Eretz Israël, donc lorsque les Bnei Israël sont partis en exil, Bifnei Abayit, Veshelo Bifnei Abayit, cette mitzvah existe soit en présence du Bet Hamikdash, soit hors de la présence du Bet Hamikdash, donc après sa destruction, Bechulin, Avallo Bemukdashim. Cette mitzvah existe uniquement pour les animaux profanes, qui ne sont pas des sacrifices, mais non pas pour des animaux sanctifiés, qui sont donc des sacrifices. Donc, lorsqu'un oiseau est offert comme korban chatat ou korban ola, son sang ne doit pas être recouvert. Venoheg bechaya ou veof, cette mitzvah existe pour les animaux sauvages, comme le cerf ou la biche, et pour les oiseaux, comme les poulets et les pigeons. Be mezuman ou becheno mezuman, cette mitzvah existe soit pour des animaux qui se trouvent à la portée de la main de l'homme, autrement dit qui ont un propriétaire, soit pour des animaux qui n'ont pas de propriétaire. Noheg Birvi, cette mitzvah existe pour un animal à propos duquel nous avons un doute s'il est considéré animal sauvage ou animal domestique. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il s'agit soit d'un animal provenant d'un croisement entre un animal sauvage et un animal domestique, ou bien il s'agit d'un genre d'animal qui n'a pas été déterminé comme étant domestique ou sauvage. Mipneche ou Safek, parce que c'est un doute, est-ce que cet animal est sauvage? Donc, cette mitzvah existe, il faudra recouvrir son sang, ou bien, est-ce que c'est un animal domestique, et il n'y a pas de mitzvah de recouvrir son sang. Ve'en shochatin oto b'yom tov, il est interdit de l'abattre pendant Yom Tov, parce qu'il est possible que c'est un animal domestique qui n'est pas concerné par la mitzvah de recouvrir le sang. Recouvrir son sang serait donc une transgression du Yom Tov. Ve'im shachato, et s'il l'a quand même abattu pendant Yom Tov, en mechassin et damo, il sera interdit de recouvrir son sang, justement à cause de ce doute. Il est donc interdit de transgresser le Yom Tov pour accomplir cette mitzvah. En l'agmara dit là-dessus, nous avons vu dans la Mishnah que la mitzvah de recouvrir le sang n'existe pas pour les animaux sanctifiés, donc pour des sacrifices. En l'agmara demande, Mukdashim Maita Malo, pourquoi est-ce que cette mitzvah n'existe pas pour les sacrifices? Il est ma Mishum de Rabbi Zera, si c'est à cause de l'enseignement de Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, Hashochet tzarich shiiten afar le mata ve afar le mala, celui qui abat un animal concerné par la mitzvah de recouvrir le sang, il devra d'abord mettre de la terre en dessous, c'est-à-dire avant de verser le sang, puis il devra recouvrir le sang avec de la terre. Sheneemar, car le pasuk dit dans Vaikra Yudzayin concernant la mitzvah de recouvrir le sang, veshafach et damo vechisahu beafar, et il versera son sang et il le recouvrira dans la terre. Rabbi Zera constate afar lo neemar. Le pasouk ne s'exprime pas en disant « il le recouvrira de terre ». De là, on aurait compris qu'il suffit simplement de mettre de la terre sur le sang pour le recouvrir. Et là, « be'afar », plutôt le pasouk s'exprime en disant « dans la terre ». Autrement dit, il faudra qu'il y ait de la terre en dessous et sur le sang. Melamed, cela nous enseigne, « chez Hashochet », celui qui abat un animal concerné par la mitzvah de recouvrir le sang, צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה, devra d'abord mettre de la terre en dessous du sang, donc avant de le verser, puis recouvrir ce sang avec de la terre. Vehacha, et ici en ce qui concerne le sacrifice, lo efshar, il est impossible d'agir ainsi. Parce que Hechi David, comment pourra-t-il faire? Litiv, qu'il mette de la terre sur l'autel, ou plus exactement sur les parois de l'autel, avant d'asperger le sang, veliv tele, et qu'il annule cette terre là-bas de manière à pouvoir considérer qu'elle fait partie de l'autel, kamosif abinyan, il se trouve qu'il ajoute sur la construction de l'autel, uktiv, alors qu'il est écrit dans Divrei Hayamim Aleph Perek Kafret, c'est David HaMelech qui s'adresse à Shlomo HaMelech, en lui ordonnant la construction du Beit HaMikdash, il conclut ses ordres en disant Hakol Bichtav Miyad Hashem Alai Hiskil. Tous les plans de la construction du Beit HaMikdash et de ses ustensiles ont été écrits comme ils m'ont été transmis par l'intermédiaire du prophète Shmuel et comme Hashem m'a donné l'intelligence de comprendre. De ce passage, nous apprenons qu'il est interdit d'ajouter quoi que ce soit sur la construction du Beit HaMikdash, ni de l'un de ses ustensiles. Finalement, il est impossible d'ajouter de la terre à l'autel. L'olive télé, si on dit qu'il mettra cette terre sur les parois de l'autel sans l'annuler, de manière à ne pas considérer qu'il fait partie de l'autel, kahave chatitza, finalement cette terre sera un écran entre le sang du sacrifice et l'autel, parce que finalement le sang n'atteindra pas l'autel. Ce serait donc la raison pour laquelle on ne peut pas accomplir la mitzvah de recouvrir le sang avec le sang du sacrifice. La Gemara objecte, Nehi de lemata lo efshar, il est vrai qu'en dessous, c'est-à-dire avant d'asperger le sang, il est impossible de mettre de la terre, comme nous l'avons expliqué, lemala efshar, mais au-dessus, il est possible de le faire, leavid kisui, il serait donc possible de recouvrir le sang, même si on n'a pas préparé de la terre en dessous. Milotania n'est-il pas enseigné dans une braïta? Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Shachat Chaya Bachakar Shachat Behema, une personne qui a égorgé un animal sauvage comme un cerf ou une biche, puis après il a égorgé un animal domestique, Patur Milechasot, il est exempté de la mitzvah de recouvrir le sang, puisque finalement le sang de l'animal sauvage est recouvert avec le sang de l'animal domestique. Behema Bachakar Chaya, mais si d'abord il a égorgé un animal domestique, puis après, il a égorgé un animal sauvage. Le sang de ce dernier est donc découvert. Chayav lechasot, il aura l'obligation de recouvrir le sang de l'animal sauvage. Et cela, bien qu'il n'y ait pas de terre en dessous. Nous voyons qu'on peut accomplir la mitzvah de cette manière. L'Agma répond, Keder Abizera, là aussi la raison pour laquelle on ne pourra pas accomplir la mitzvah de recouvrir le sang avec le sang du sacrifice, selon l'enseignement de Rabizera. De Amar Rabizera, concernant les lois de Mincha. La mincha est une offrande à base de farine et d'huile d'un volume d'un hissaron, soit un volume équivalent à celui de 30 œufs, soit environ 2,5 kg. La Mishnah dans Masechet Menachot Dav Kuf Gimel Amud Bet dit que lorsqu'une personne s'engage à offrir plusieurs minchas, il peut mettre la quantité équivalente à plusieurs minchas dans un même ustensile pour son offrande, à condition de ne pas dépasser la quantité de 60 minchas, donc 60 hissaron. À partir de 61 hissaron, donc, il devra partager son offrande dans deux ustensiles. L'Agma explique que c'est parce qu'il faut pétrir la farine et l'huile. Lorsque le mélange dépasse la quantité de 60 hissaron, il est impossible de pétrir cette pâte convenablement. C'est pour cela, donc, qu'il faudra séparer son offrande dans deux ustensiles. L'Agma demande, puisque la halakha est que si une personne n'a pas pétri la pâte, l'offrande est quand même kasher. La mincha devrait être kasher donc, même s'il est impossible de pétrir cette pâte. En là-dessus, Rabbi Zera répond, Kol haraou le bila, toute pâte susceptible d'être pétrie, en bila me akevet bo, le pétrissage n'est pas impératif. Bechol she'eno raou le bila, mais toute pâte qui n'est pas susceptible d'être pétrie, parce que la quantité est trop grande, bila me akevet bo, le pétrissage sera impératif, la mincha sera pas soul. C'est pour cela donc, qu'il faudra impérativement séparer la mincha dans deux ustensiles. De cet enseignement, nous tirons un principe général, selon lequel, même lorsqu'une action pour l'accomplissement d'une mitzvah n'est pas obligatoire, c'est uniquement s'il est possible théoriquement de la faire, mais s'il est impossible de la faire, par exemple, dans notre cas du sacrifice, où il est impossible de mettre de la terre avant de verser le sang du sacrifice, cette action sera impérative, il sera donc impossible d'accomplir la mitzvah de recouvrir le sang avec le sang d'un sacrifice. Alors que dans le cas où, par exemple, il avait oublié de le faire, il lui serait possible simplement de recouvrir le sang de l'animal qu'il a égorgé, même s'il n'y avait pas de terre en dessous. Alors nous revenons au raisonnement du premier Amora qui a posé la question. Si nous voulons dire que la raison pour laquelle on ne peut pas accomplir la mitzvah de verser le sang du sacrifice à cause de l'enseignement de Rabbi Zera, parce qu'il est impossible de mettre de la terre en dessous, alors il poursuit sa question, veligare, velirse, on n'a qu'à gratter le sang des parois de l'autel après qu'il a été aspergé et le mettre ainsi sur de la terre, et on n'a qu'à le recouvrir avec de la terre. C'est-à-dire, même si on ne peut pas recouvrir ce sang au moment où il est versé sur l'autel, on peut le faire par la suite, après que l'aspersion a été terminée. Milotnan n'est-il pas enseigné dans une Mishnah plus loin d'Aspezaïn Amoudbet, Dam Hanitaz, le sang qui gicle en dehors de l'endroit où le sang est versé, Veshéal Asakin, et celui qui se trouve sur le couteau avec lequel on a égorgé l'animal, Chayab Lechassot, il est obligatoire de le recouvrir. Forcément, si on veut recouvrir le sang qui se trouve sur le couteau, Alma donc, dégarir ou mechasele, on le gratte, donc on l'enlève du couteau, on le met sur de la terre et on le recouvre. Hachanami, ici aussi en ce qui concerne le sang du sacrifice, nigror venirsele, on n'a qu'à le gratter et l'enlever des parois de l'autel pour le mettre sur de la terre et ainsi le recouvrir. Rakhma répond, ibekotchemisbeach, s'il s'agit de sacrifices destinés à être offerts sur l'autel, hachinami, il est vrai qu'on peut accomplir la mitzvah de recouvrir le sang de cette manière, c'est-à-dire en le grattant et en l'enlevant des parois de l'autel pour le recouvrir. Hacha bemaeskinan, ici, dans notre Mishnah, de quoi il s'agit, bekodshe bedekabait, d'animaux qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple, ils sont donc destinés à être rachetés pour utiliser leur contre-valeur pour la réfection du temple. S'ils ont été égorgés par erreur, ils sont interdits à la consommation, et c'est pour cela donc que la personne qui les a égorgés est exemptée de la mitzvah de recouvrir le sang, parce que finalement, cette viande n'est pas destinée à la consommation. Nous passons à Daf Pedalet Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.